s'enclenche.
On s'est déjà parlé, je ne sais plus où vous étiez.
J'ai en quelque sorte devant moi une page blanche.
Donc c'est une occasion d'aller voir et de rendre compte.
Vous êtes parti comme ça sans vous poser de questions.
Tu peux aller où tu veux, c'est toi qui es le maître du monde.
Moi le soir j'adore rentrer du boulot et puis vous écouter, j'aime bien.
Vous m'aurez tout fait dans cette émission.
Je vous laisse, j'ai des copains qui arrivent.
Il faut aimer les déserts, il faut aimer le vide, l'immensité.
Vous passerez un petit coup de fil de là-bas.
Allô la planète, du lundi au jeudi à 23h.
France Inter présente Massive Attack.
It's unfortunate that when we feel a storm,
Ellie Goland.
She will love you like a flame never loved.
Un retour aux sources noires et magiques de la musique du duo de Bristol. Retrouvez Massive Attack et ses nouveaux titres dans le programme musical de France Inter.
France Inter. La différence.
15h04 sur Inter, c'est l'heure de retrouver Daniel Bermet. C'est là-bas si j'y suis.
Salut Daniel, non, c'était juste pour te dire un petit merci pour l'édito aujourd'hui sur le foulard et toute cette affaire complètement ridicule et incroyable. T'as vraiment trouvé les mots qu'il faut et y a rien à retrancher, quoi. C'était vraiment bien. Moi j'ai connu une des premières affaires du foulard, enfin une des premières, il y a plus de 10 ans maintenant. À flair et c'était irrespirable, quoi. Cette impression que vraiment tout d'un coup tout le monde te saute à la gorge, soit parce que tu portes, soit parce que tu soutiens les jeunes filles à qui on donne jamais la parole d'ailleurs pour parler à leur place. Enfin c'était vraiment suffocant et là cette ambiance qui revient, c'est vraiment terrible. Aujourd'hui je suis prof dans un collège dans un quartier populaire et des mamans à foulard on en reçoit tous les jours. Il ne viendrait pas à l'idée ni de leur demander de leur enlever leur foulard, ni de les foutre dehors de ce bel établissement public. Pourtant, les valeurs de la laïcité. Et puis, dernier truc pour l'auditrice aussi, qui avait laissé un message juste avant. Faut vraiment avoir jamais foutu les pieds hors de France pour pas savoir qu'il y a des femmes qui portent le foulard et qui sont humanistes, féministes, pour le progrès social. Faut vraiment être dans son petit coin, quoi, pour penser de telles imbécilités, quoi. Voilà, merci encore, salut.
Bonjour, monsieur Mermet, j'ai du mal à digérer votre éditorial d'hier, lundi, qui ricanait sur la réaction limite islamophobe de ceux et de celles, dont moi, qui sont choqués par le fait qu'une jeune femme portant un foulard se présente au régional, dans le Vaucluse, sur une liste NPA, en se définissant comme laïque et féministe. Je suis écœurée par ce réquisitoire qui me rappelle ceux de Philippe Val ou de Serge Julie à l'attention des opposants au traité constitutionnel. Je ne vous reproche pas votre opinion, bien sûr, mais vous êtes rattrapée par le fameux politiquement correct qui cloue le bec méchamment à toute opposition un peu nuancée à l'air du temps. Alors je ne vais pas donner dans la nuance, Mermet. J'emmerde les curés, toutes les religions, les hommes, les femmes de religion. Les religions sont toutes nuisibles. Elles oppriment les femmes encore et toujours et je revendique le droit de dire qu'une féministe laïque doit se battre pour l'émancipation des femmes. Et l'émancipation, ça ne passe pas par l'Église ou la religion. Voilà, je suis Claude, 56 ans, ancienne militante de la LCR.
Bonjour à tous les AMG. Je me permets de vous faire part de mon accablement devant le délire médiatique qui s'active autour du port du voile ou de la burqa. Soyons clairs, je désapprouve le port de ces outils de discrimination qui ne font qu'interdire aux femmes ce qui est autorisé aux hommes. Mais alors j'aimerais que notre société si soucieuse de la dignité de la femme, qui finalement se permet de donner la leçon au monde musulman sur la façon de considérer la femme, j'aimerais que notre société condamne avec la même véhémence l'insulte faite au corps de la femme quand il est livré au voyeurisme de tous, sur les devantures des vendeurs de journaux, par exemple. Tous ces corps exposés, tels des marchandises, belles leçons de dignité. Mais là, il y a du business. Alors pas touche. Le commerce des magazines les plus racoleurs ne peut souffrir aucun frein, même si c'est la femme marchandisée qui en fait les frais. Je pense que si les musulmans avaient imposé le port du carré Hermès sur les cheveux des femmes, alors au nom du business purificateur, on leur foutrait la paix. Pour conclure, je dirais qu'en tant que père d'une petite fille, je suis plus à l'aise pour lui expliquer en quoi le voile emprisonne la femme, plutôt que de lui expliquer pourquoi l'exposition de sa nudité l'emprisonne peut-être davantage. C'était Pascal Dumont.
Oui, bonjour, c'est Daniel Séverin, j'habite à Brion dans l'Yonne.
Alors voilà, je voulais parler de ces femmes qui portent le voile. Elles font couler beaucoup d'encre et de salive, hein, ces femmes qui portent le voile. Mais on les entend jamais. On parle à leur place, de leur religion, de leur soumission, etc. Dans une France où il y a l'aggravation de la discrimination de la situation des femmes. Et voilà, il y en a une qui se permet d'élever la voix, d'exister, de lutter contre les injustices de la société pourrie. Et de tous bords, de droite, de gauche, ce sont les hurlements. Impossible de l'écouter, refuserait-on le droit de s'exprimer? C'est bien pratique le voile, mets ton voile et tais-toi. Ne sors pas du rôle qui t'est demandé de jouer. Il y a toujours eu des femmes comme ça dans l'histoire de France. Ces femmes qui veulent exister pour ce qu'elles sont et non pour le rang qu'on leur assigne. Bravo pour ce courage, le voile a maintenant un visage, une voix forte parmi tant d'autres pour la lutte contre le racisme, l'injustice et les discriminations.
Je ne suis qu'un simple militant NPA, mais je voudrais apporter quelques précisions concernant Ilham, la camarade du Vaucluse, numéro 5 sur la liste des candidats aux élections régionales, qui porte un foulard, un fichu, un voile, c'est selon. Personnellement, devenu athée, je suis contre cette candidature. Mais au NPA, les comités locaux ou départementaux sont souverains. Le NPA n'est pas un parti gaudillot où tout le monde est derrière le chef, comme à l'UMP ou au Modem, et un peu au PS. Olivier Besancenot n'est que le porte-parole. Il ne peut interférer dans la vie des comités, et aurait dû répondre aux journalistes que le NPA du Vaucluse a décidé par lui-même, après de nombreuses discussions, des militants de ce département. Certains bien intentionnés de l'UMP ou du PS ont déclaré que cette candidature était orchestrée pour récupérer des votes dans les quartiers populaires. Si cela avait été le cas, nous l'aurions fait dans les départements où les Français musulmans sont le plus nombreux, comme en Bouches-du-Rhône ou en Seine-Saint-Denis, pas dans le Vaucluse. C'est le Figaro, journal bien connu pour ses idées de gauche, qui a monté en épingle la candidature d'Ilham. Une parmi les 2000 candidats au régional. Ce n'est pas elle qui va faire basculer le NPA en parti islamique. De toute façon, en novembre, ce sujet sera débattu et tranché au niveau national, avec une réunion des délégués de tous les comités départementaux. Didier, NPA 83, comité de Brignoles.
Salut Daniel, là je viens de t'entendre là, par rapport à la camarade du NPA qui se présente sur une liste dans le Vaucluse avec un voile de moins bien fort. Moi je ne suis pas au NPA, mais je vote NPA. Et ça ne va pas me faire changer mon butin de vote. Mais néanmoins, il y a une chose moi que je voudrais dire quand même, c'est quels sont les arguments qu'on aura si on accepte le voile. Comme ça, les arguments qu'on va avoir si on laisse pénétrer la religion dans la politique. Moi, je dis qu'il faut... La religion, c'est l'opium du peuple. Et il faut se débarrasser de toutes les religions. Ça, c'est mon point de vue. En attendant, camarades, il faut serrer les coudes et puis il faut virer cette droite. Illico presto! Illico presto! Allez, salut Daniel.
Stéphane n'a pas été à l'école ce matin. Stéphane n'ira plus jamais à l'école. Stéphane était un petit garçon de 3 ans d'une famille rome d'Orly. Il était rentré joyeusement à la maternelle au mois de septembre. Stéphane est mort hier soir. Il a brûlé dans l'incendie du baraquement de planches et de carton où il habitait avec sa famille. Honte, tristesse et colère sont dans nos cœurs. C'est Yves de Vitry.
Bonjour, ici c'est Michel. Je téléphone après l'évocation de l'historien américain Howard Zinn et j'en profite pour remercier Daniel Mermet de m'avoir fait connaître cet historien qui a donné une vision nouvelle de l'histoire des USA, celle qui ne cache pas le sort des dominés sous l'amas d'autres faits considérés comme plus importants par les classes dominantes. Voilà.
Merci pour ces messages, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, on continue effectivement avec Howard Zinn, qui nous a quittés il y a quelques semaines déjà, avec une petite phrase qu'on a bricolée, mais qui est très efficace et qui éclaire bien le trajet, le parcours et le travail de Howard Zinn. Tant que les moutons n'auront pas d'historien, les loups écriront l'histoire. Et le livre de Howard Zinn, l'histoire populaire des États-Unis, a contribué à ce que les gens d'en bas, les éternels dominés, aient leur histoire, et que l'histoire, en tous les cas, des États-Unis soit vue à travers leur histoire à eux, leurs histoires à eux. Oui, ça a chauffé dans le répondeur de là-bas. Si j'y suis, vous avez entendu évoquer le voile, c'est ouvrir tout de suite la boîte à fantasmes et la boîte à claques également, il faut bien dire. Même si on n'a absolument pas fait hier l'apologie de l'islam en quoi que ce soit, on a simplement évoqué cette histoire de la candidature de cette jeune femme du Vaucluse qui porte un voile mais absolument léger, qui a déclenché cette colère mais unanime, véritable lynchage du monde politico-médiatique. Au-delà, je crois qu'on s'en fout un petit peu de tout ça, mais enfin, ça a secoué une fois de plus cette Andernos si prompt à défendre, en l'occurrence, les valeurs soudain de la République, de la laïcité, et défendre les femmes. Ces femmes en question, ces femmes voilées, ces filles voilées, parlent peu souvent, on parle en leur nom, mais elles, les écoute-t-on. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2004, on avait reçu Radija, qui était une femme qui portait le voile et qui était venue dans la basse, j'y suis, nous dire pourquoi elle portait ce voile. Je me souviens des problèmes qu'on avait eus avec la réception de France Inter, qui nous avait demandé de venir la chercher en bas, tant cette présence semblait diabolique. Et voilà, c'est des choses assez extraordinaires qui font écho à ce dont va parler Howard Zinn aujourd'hui, le macartisme aux États-Unis dont il a été témoin. Mais déjà, cette histoire d'hier est oubliée, parce que la grande affaire du jour, c'est notre pompeux cornichon. C'est pas bien, pompeux cornichon. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre Noël Godin en grève, l'entarteur qui a réussi à t'entarter cette fois, c'était quand même pas mal. Et bien maintenant, c'est fini, puisque tu t'entartes toi-même, pompeux cornichon. Vive Botul et les inventeurs de Botul, qui sont des amis de là-bas, si j'y suis. Mais la question qui se pose, c'est comment, par quel... On sait bien qui est Bernard-Henri Lévy depuis longtemps, depuis le petit papier que Pierre Vidal-Naquet lui avait consacré en 1979. Là, ça dure depuis plus de 30 ans. On sait à quoi s'en tenir avec cet, écrivain. Mais la question est, pourquoi est-ce qu'on continue d'inviter Bernard-Henri Lévy de cette façon dans toutes les émissions? Est-ce que ça fait de l'audience? Si ça faisait de l'audience, on pourrait se dire, eh ben voilà, ça en fait pas plus qu'une autre star, qu'un autre people. Si vous faites venir Rachida Dati dans une émission, vous faites autant d'audience, et vous pouvez aussi bien ne jamais avoir de people et faire une très bonne audience, comme par exemple, au hasard, là-bas si j'y suis. Eh bien, c'est que il y a 7 livres qui ont été consacrés à Bernard-Henri Lévy. Et tous ont mis en lumière quelque chose de spécial chez ce garçon, c'est son talent, son génie du réseau. C'est le champion du réseau. C'est un homme. Les hommes politiques savent faire ça, dans le business on sait faire ça, mais là c'est appliqué au monde intellectuel, au monde des idées, autant qu'on puisse parler de choses pareilles, en l'occurrence. Et en cumulant des titres et des fonctions d'auteur, d'éditorialiste, de directeur de collection, de membre de certains conseils de surveillance, de comités éditoriaux, de commissions d'avance sur recettes. Il faut dire aussi qu'on le sait bien, c'est pas un secret que Bernard-Henri Lévy est un homme d'affaires avisé, qui gère d'une main de maître la fortune héritée de son papa, faite dans l'exploitation du bois en Afrique, et l'exploitation aussi un petit peu accessoirement des Africains. Bref, tout ça on en a parlé, tout ça est de notoriété publique, mais il faut reconnaître à Bernard-Henri Lévy ce talent, ce génie de la communication à travers l'entretien de réseaux et d'influences diverses et variées. C'est une virtuosité extraordinaire dont nos camarades journalistes sont, il faut bien le dire, les complices, puisque cette campagne pour la parution des deux livres de Bernard-Henri Lévy marche à fond, sans que ni son éditeur, ni les journalistes qui le reçoivent aient pu, su détecter cette bourde formidable qui ressemble bien quand même à une tarte à la crème sur un cornichon pompeux. On retrouve donc Howard Zinn avec bonheur aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Nous envoyer un DRH. Oui, un DRH, afin de constituer, je cite, des groupes de parole. Voilà 5 jours après l'agression violente d'un élève de 14 ans au sein de l'établissement que le personnel du lycée Chériot de Vitry-sur-Seine demande au rectorat de Créteil de rétablir le nombre d'assistants d'éducation qu'il y avait au lycée il y a 10 ans. Face à la violence, je peux vous dire qu'on en a fait des réunions de travail, on a discuté des heures, organisé des groupes de réflexion avec compte-rendu à la clé, on s'est remis en question sur l'organisation de l'établissement, sur le travail d'équipe, fixé des procédures qui permettaient de réagir rapidement et efficacement face aux actes d'incivilité. On a proposé de mettre en place toutes sortes de dispositifs, sauf que la plupart de nos préconisations n'ont pu être mises en œuvre faute d'assistants d'éducation disponibles. Ah. Et le recteur nous propose de nous envoyer un DRH. Nous sommes décidément de pauvres enseignants qui subissons à chaque moment la violence apocalyptique de monstrueux délinquants, naturellement et foncièrement mauvais. On est tous déprimés parce qu'on n'a pas trop d'autorité et on subit tellement la violence qu'on est en permanence sous tranquillisant. Voilà pourquoi il faut nous faire parler, organiser des stages cathartiques. On va s'asseoir sur les genoux du DRH et pleurer un bon coup. Ça ira mieux après. Non, ce qui nous manque, on le sait. Ce sont 11 assistants d'éducation. Et pas des médiateurs, pas n'importe quel adulte prêt à dégainer. Pour le grand public, ça peut paraître technique, mais en tant que professionnel de l'éducation, les compétences dont on a cruellement besoin, nous, on sait où elles se trouvent. Chez les assistants d'éducation. Nous espérons que M. Châtel, ministre de l'Éducation nationale, acceptera dès aujourd'hui d'en finir avec la plaisanterie et se comporter également en professionnel. C'était Jérémy, enseignant au lycée Chériot de Vitry-sur-Seine. The traffic lights weren't working, snarling traffic. In the area, more than 3 million people lost electricity after a fire at a transmission center. ABC's
My students kept asking me if I knew of a book that offered a different view, a radical view, a critical view of American history. My name is Howard Zinn, and I wrote A People's History of the United States.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base que j'y suis, avec Guy Van Til, Howard Zinn, des huîtres au Tabasco.
Let's not overdo it.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, Howard Zinn, vous dites, j'ai cessé d'être un jeune homme aux idées libérales, ayant foi dans le caractère équilibré de la démocratie américaine. Je devins un radical convaincu que quelque chose d'essentiel ne tournait pas rond dans ce pays, quelque chose de pourri à la racine. Et ça, je trouve que c'est... Ça, c'est vous. C'est-à-dire que ce qui est considéré comme l'ordre normal du monde, l'ordre de la démocratie, l'ordre du monde politique, c'est-à-dire soit on est républicain, soit on est démocrate, comme en France on est soit de gauche, soit de droite, etc. Et puis qu'il n'y a aucune autre possibilité, à moins d'être marginal, original, alternatif, etc. Hein? Et vous, il y a un moment, vous avez mis cet équilibre politique-là en cause dans votre vie. Il y a un moment, vous vous êtes dit non,
ça ne correspond pas à la réalité politique, ça ne correspond pas à la réalité sociale, ça tourne pas rond et moi je deviens radical.
Yes, you know, it was a process in my thinking of working in the shipyard, my organizing shipyard workers, my reading, and then after the war, my reflecting on government and going to war. And so yes, I was definitely outside the orthodoxy of the, you know, liberalism and the two-party system.
Oui, j'étais vraiment complètement en dehors de ce vision binaire de l'orthodoxie, en fait, de ce système démocratique représentatif américain, mais qui était le résultat de mon expérience dans les chantiers navals, de mon expérience et ma réflexion après sur la guerre, et qui m'a fait vraiment sortir de cette espèce de borne qui limitait ma réflexion, qui était le modèle classique américain comme tel.
Mais à l'époque, le contraire de ça, c'était le communisme, c'était l'URSS.
Well, let me first say something about the whole question of the relationship between the left and the Soviet Union. Like many young radicals at the time, I had an idealized picture of the Soviet Union.
Laissez-moi d'abord vous dire un mot sur la relation de la gauche américaine avec l'Union soviétique, parce que comme beaucoup de jeunes radicaux de ces époques-là, j'avais une version un peu idéale de l'Union soviétique.
Especially as a result of the war, because the Soviet Union was the great force against fascism.
En particulier suite à la guerre où l'Union soviétique était apparue comme la grande force antifasciste.
However, it was actually during the war that I began to, for the first time, began to have questions about the Soviet Union because a fellow member of the Air Force gave me some books to read. And one of them was a book by Arthur Koestler, The Yogi and the Commissar.
Ah, c'est le yogi.
And when I read that book, it was a shock to me.
Mais même cette réflexion a commencé à changer pendant la guerre, alors que j'étais soldat, alors que j'étais sur les bombardiers. C'est un gunner, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient du tir des avions de chasse, qui m'a donné de la lecture. Et parmi ces livres qu'il y avait, il y avait Arthur Koestler, le yogi et le commissaire.
Because I saw Koestler as he was a person on the left. He had been in Spain during the Civil War, and yet he was very harshly critical of the Soviet Union.
Parce que c'était quelqu'un de gauche, ce Koestler, il était allé faire la guerre d'Espagne, et pourtant c'était quelqu'un qui était, depuis la gauche, très critique du système soviétique.
So that's, I began to have doubts about the Soviet Union, even though after the war I was opposed to the Cold War policies of the United States.
Et c'est comme ça que j'ai commencé, pendant même la guerre, à m'opposer à l'Union soviétique, même si après la guerre, j'étais contre la politique de guerre froide menée par les États-Unis.
Oh, that uniform.
Feel free to stop anytime now.
And he uses this menu pricing guide, so he knows exactly what I owe.
Can I just say,
and he never walks through my yard or parks in my driveway.
Get the plumber you deserve. Visit us at MrRuder.com.
The mortgage industry is in a tumultuous state, from subprime loans to adjustable rate mortgages coming due to the collapse of mortgage companies. You need to know the truth about the mortgage industry. Don't miss our new program, The Mortgage Guides, presented by Vantana Mortgage, live on Saturday mornings from 7 a.m. to 8 a.m. Gary Franks and
Mark. En principe, aujourd'hui, des hommes qui parlent ainsi sont marginalisés, classés à l'extrême gauche, folklorisés. C'est pas le cas du tout de Howard Zinn, celui qui parle. Howard Zinn a été célébré de son vivant. Et également, bien sûr, aujourd'hui, après son décès il y a quelques jours, à travers les États-Unis notamment, beaucoup moins en France, c'est vrai, et pourtant sa pensée, son travail d'historien et sa vie tout court, puisqu'il a travaillé comme historien, comme intellectuel et comme professeur aussi, après bien des expériences dans la vie sociale, dans la vie courante, et même, il nous l'a raconté hier, comme militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, même si cette vie a quelque chose, un caractère tout à fait universel. Howard Zinn, donc, aujourd'hui, dans la base Si J'y Suis, c'était un entretien que nous avions eu avec lui, avec Guy et avec Olivier, en avril dernier, à Boston, dans son bureau. Le bureau, il a travaillé pendant des années à la rédaction de pour préparer ses cours comme prof à la Boston University. Et puis aussi, hello, au mur, des photos de ses spectacles. Il a écrit pour le théâtre, Marx, Le Retour, une pièce sur Emma Goldman, magnifique. Tiens, on parlait de figure du féminisme, ben en voilà une formidable, Emma Goldman, auquel, à laquelle il a rendu hommage. Dans ses, et puis ses écrits, ses nombreux, innombrables conférences à travers les États-Unis et à travers le monde. Et là, il y a dans le numéro du Monde diplomatique de ce mois de février, il y a un article qui fait merveilleusement écho à ce que va nous dire aujourd'hui Howard Zinn. C'est un article du journaliste Alexander Cockburn, qui est au co-directeur du Counterpunch. Il y a un site sur le Counterpunch, si vous lisez l'anglais, je vous conseille d'aller faire souvent un tour sur ce site. Et dans cet article, Alexander Cockburn évoque ce que fut cet âge d'or de la gauche américaine dans les années 60. Il raconte ce qui s'était passé à Greensboro, comment le 1er février 60, en dépit du règlement intérieur qui stipulait que les Noirs devaient manger debout, quatre étudiants du lycée agricole et technique de Caroline du Nord s'assoient à la cafétéria du magasin Woolworths de Greensboro et le lendemain, ils sont 25. Deux jours plus tard, quatre étudiantes blanches les rejoignent. Peu après, le mouvement s'étend à 15 villes dans 9 États du Sud des États-Unis. Le 25 juillet, après avoir essuyé 200 000 dollars de pertes, le magasin, c'était une succursale d'une chaîne nationale, renonce officiellement à sa réglementation ségrégationniste, car c'était la ségrégation, vous le savez bien. Ces événements, dit Cockburn, provoquent un véritable séisme dans le pays et marque le point de départ d'une refonte en profondeur de la société. Eh bien, des choses qui nous semblent aussi miraculeuses aujourd'hui, quelqu'un comme Howard Zinn en a été pas seulement le témoin, mais l'acteur engagé qu'il est, d'un homme dont l'engagement nous rend, et c'est le but de cette heure, optimiste, avec lucidité bien sûr. Pourquoi ? Parce que les acteurs, dit-il, les acteurs essentiels de ces luttes en faveur de la justice sont les êtres humains qui ne serait-ce qu'un bref moment, et même rongés par la peur, osent faire quelque chose. Et ma vie fut pleine de ces individus ordinaires et extraordinaires dont la seule existence m'a donné espoir. Jusqu'à 16h, Howard Zinn, un goût d'huître au tabasco.
My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Alors comment vous êtes devenu professeur? Comment vous êtes devenu historien?
You know, after the war, I came back to my working class roots, worked at different jobs, bad jobs.
Quand je suis revenu, je suis retourné à mes racines working class, à mes racines ouvrières, et j'ai commencé à enchaîner des petits boulots ouvriers, des mauvais boulots, mal payés.
And so then I decided that I would go to college and utilize the GI Bill that gave free college tuition for veterans of the war.
Et c'est là que j'ai décidé d'aller à l'université, en utilisant une loi qui avait été votée, GI Bill, qui permettait des frais de scolarité gratuits aux vétérans de la Deuxième Guerre mondiale.
And so I thought, I will either become a lawyer or a teacher, because I could follow my political convictions.
Et je me suis dit, je serais ou un professeur ou un avocat, parce que dans l'un ou l'autre cas, je pourrais être conforme avec mes convictions politiques.
But in the McCarthy period, radicals who wanted to become lawyers were not allowed to become lawyers.
Mais pendant la période McCarthy, ceux qui étaient engagés, les radicaux, qui voulaient devenir avocats, n'étaient pas admis à le devenir.
So I studied history, decided I would become a teacher.
Et c'est comme ça que j'ai étudié l'histoire et décidé que je serais professeur.
Donc vous faites vos études à Columbia, et là, puisqu'on évoque le McCarthyisme, comment c'était vivable ça? Quelle était la pression du McCarthyisme dans votre université au cours de ces études?
I encountered McCarthyism not so much in the classroom, but I was aware of McCarthyism mostly outside the classroom because I was still a political activist and I spent very little time in the university and more time outside in political activity.
J'étais conscient du McCarthyisme universitaire, mais j'en étais pas vraiment témoin parce que j'étais pas beaucoup à l'université, parce que tout en étant enseignant, je passais le maximum de mon temps et mon énergie à militer et à faire de l'activité politique.
And I was going to college and university and also working 4 p.m. to midnight loading trucks. So I spent as little time as possible in class.
Et donc, je travaillais à l'université, je faisais mes cours, mais en plus, je travaillais à partir de 4 heures de l'après-midi jusqu'à minuit à charger et décharger des camions, ce qui fait que j'étais en fait peu de temps dans l'université, en cours.
But I was aware of what was happening in the country, the loyalty oaths, the investigations, the FBI, an atmosphere of fear, yes.
Mais par contre, j'étais vraiment conscient de ce qui se passait dans le pays, cette atmosphère de peur qu'il y a, le FBI qui faisait la chasse aux bons citoyens.
For instance, just as I was entering the university in 1949, my wife and I and child went to a demonstration in Peekskill, New York. Paul Robeson had been refused the right to sing in this little town. There had been very angry demonstrations against him by local veterans, right-wingers. And so it was decided by people on the left that there would be a huge gathering in this little town of Peekskill, New York, to support Robeson's right to speak.
Par exemple, en 1949, on est allé participer à une grande manifestation à Peekskill, dans l'État de New York, au nord de la ville de New York, pour Paul Robeson.
Grand chanteur extraordinaire. Paul Robeson était célèbre en France aussi. Et il chantait une chanson qui s'appelait Sixteen Tons. C'était sur les mineurs. Il y avait une chanson qui était très célèbre en France, qui a été traduite en français. Il la chantait lui-même en français.
Et parce que Paul Robeson avait été interdit de chanter par des anciens combattants et puis aussi par des gens de droite de la région Peekskill. Et donc, il y avait eu ce mot d'ordre qui avait été lancé pour un grand rassemblement à Peekskill, dans l'État de New York.
This incident at Peekskill is one of those hidden incidents in American history which does not appear in the history books.
Et ce qui s'est passé ce jour-là à Peekskill fait partie de ces incidents cachés de l'histoire américaine qu'on ne retrouve dans presque aucun livre d'histoire.
Thousands of people gathered to hear Paul Robeson sing, and then when they left the area, they were attacked by a mob of people throwing rocks and people were badly injured.
Des milliers de personnes s'étaient retrouvées en plein air pour écouter ce concert de Paul Robeson. Et alors que le concert était fini et que les gens rentraient, ils ont été attaqués par une espèce de foule hargneuse qui leur jetait des pierres, vraiment des cailloux. Et il y avait énormément de blessés graves.
So it was an early manifestation of the McCarthy atmosphere.
Et ça, c'était une manifestation assez précoce de l'atmosphère qu'il y avait sous le McCarthyisme.
I got a red hot tip for you, Joe. See that guy with the red suspenders driving that car with the bright red fenders. I know he's one of those heavy spenders. Get that communist, Joe. He's filling my gal with propaganda, and I'm scared she will meander. Don't wanna take a chance that he'll land her. Get that communist, Joe. He's the most revolting character, and the fellas hate him so. But with the girls, this character is a comrade Romeo. Since my love, he's sabotaging, and the law he has been dodging. Give him what he deserves, jailhouse lodging. Get that communist, Joe.
Get that small Joe.
He's a most revolting character, and the fellas hate him so. But with the girls, his character is a comrade Romeo. Since my love, he's sabotaging, and the law he has been dodging. Give him what he deserves, jailhouse lodging. Get that communist Joe.
Get that communist Joe. Get that communist Joe.
Après, vous vous êtes engagé. Après, ça a été une grande période, celle des luttes pour les droits civiques aux États-Unis. Ça, c'était une période héroïque. Et en tête de tout ça, il y avait un certain Howard Zinn.
Non, I wasn't in the front.
J'ai entendu le petit. Ça n'a pas marché, mon histoire. De lui cirer les godasses à Howard Zinn. C'est un vieux renard à 87 ans. Vous pensez bien que ce genre de flatterie d'animateur de radio n'a pas marché du tout. Il a milité, il s'est engagé, mais il n'en fait pas non plus toute une histoire. Il n'était pas seul, bien évidemment. Il ne s'isole pas. Il raconte l'histoire du peuple par le bas. Ce n'est pas pour marcher sur le dos du peuple, ni s'ériger sur le compte des autres, bien évidemment. Et on continue avec lui ce récit et cette évocation de cette époque, de ces années 60 aux États-Unis, puis 70 avec la guerre du Vietnam, qui verra effectivement se lever aux États-Unis une opposition radicale, mais qui ne se limitait pas à dire vive la paix, à bas la guerre, comme les images qui sont restées un peu de cette époque, des images un peu niaises du power flower et des hippies, etc. Il y avait une pensée politique qui venait de, et Howard Zinn en a été encore une fois l'acteur et le témoin, de ces années d'avant la guerre, de la grande récession, de l'engagement d'une partie de la jeunesse américaine contre le fascisme. Et donc, tout naturellement, après la Deuxième Guerre mondiale, et malgré le macartisme, vous avez entendu cette chanson qui dit oh, regarde celui-là, il a une veste rouge, ça doit être un communiste. Le macartisme qui a été vraiment d'une puissance, d'une force de répression, de censure contre tout ce qui osait penser différemment, malgré ça, cette génération l'a apporté ça et a gagné beaucoup de points et beaucoup d'avancées. D'où la ce message qui est précieux parce que il est optimiste. Pourquoi est-il optimiste, le message de Wardine? Parce que on ne perd pas toujours et ils ont parfois gagné.
I was teaching in the South, right? My first teaching job at a black women's college in Atlanta, Georgia.
Moi, j'étais pas en première ligne, je peux pas dire ça, mais c'est vrai que mon premier poste d'enseignant, c'était pour une université de femmes noires à Atlanta, en Géorgie.
C'était choisi?
No. I was just looking for a job.
À vrai dire, moi, je cherchais surtout un boulot.
Spelman was an all-black college. The educational system in the South was totally segregated from elementary school up, you know, through college.
L'école Spelman où j'enseignais était complètement ségrégée, mais comme toute la scolarité, depuis la maternelle jusqu'à l'université, yeah, dans le sud des États-Unis.
So it was only toward the end of my teaching, I was taught there for 7 years, and only toward the end of my teaching that they begin to admit a few black people to the high schools in Atlanta, Georgia.
Et moi, pendant les 7 années où j'ai enseigné là-bas, c'est pas avant la fin où il y a quelques étudiants blancs qui ont été admis à venir participer au cours.
For instance, our daughter and our son went to white schools, and then they would come back from school into the black neighborhood where we lived. And so they were living in these two worlds. And then shortly before we left the South, my daughter's high school for the first time admitted one black student.
Et par exemple, mon garçon et ma fille, mes enfants, eux, ils étaient obligés d'aller dans des écoles blanches. Et le soir, après les cours, ils revenaient habiter dans le quartier noir où on était. Donc leur éducation était complètement ségrégée. C'est simplement quand on a quitté Atlanta en Géorgie que ma fille a pu aller au lycée où pour la première fois, il y avait un noir qui était admis dans un lycée, jusque-là réservé aux blancs.
But once I was there, I became involved in the movement. My students became involved in the movement. They had been very quiet, and but then they saw on television the pictures of students in another state who had been sitting in lunch counters and being attacked, and they saw these pictures on television and they decided in Atlanta, Georgia, my students and other black students decided they wanted to do something for racial equality.
Mais c'est comme ça qu'après on s'est trouvé engagé dans ces luttes, en particulier quand on a vu dans d'autres états, dans d'autres régions, des sittings, des organisations, des manifestations organisées par les étudiants qui faisaient face à la répression, qui étaient attaqués. C'est là où mes étudiants se sont dit avec d'autres, nous aussi, à Atlanta, en Géorgie, on va se battre pour l'égalité raciale.
And so I supported them, and I was with them, and I went on demonstrations with them, and I sat in with them, and I was not a leader of the movement, but I was a participant in the movement.
Et donc moi, je soutenais mes étudiants, je les accompagnais, je participais avec eux aux mobilisations.
So I became a participant in the movement and a writer about the movement at the same time.
Et c'est comme ça que je suis devenu en même temps un témoin privilégié et un acteur de ce mouvement.
From Atlanta, I would go to other towns in Georgia, Alabama, Mississippi, wherever there were things, demonstrations going on, attempts to register black people to vote. And so I became part of the movement, yes.
Et c'est comme ça que depuis la Géorgie, j'allais jusque dans l'Alabama ou le Mississippi, partout il y avait des mobilisations qui étaient organisées, par exemple, pour pouvoir inscrire les Noirs sur les listes d'électeurs. C'est comme ça que vraiment je me suis impliqué dans tous ces mouvements.
Il ne faudra pas qu'on oublie cet épisode-là quand on parlera d'Obama par la suite dans l'entretien, parce que je voudrais bien évidemment vous interroger sur Obama. Mais je me souviens que dans votre livre, vous évoquez les débarquements en France en 1944 et comment dans le Queen Mary, je crois, et les soldats noirs étaient dans les cales. La ségrégation était totale. On oublie ça, on n'arrive pas à imaginer aujourd'hui que des jeunes Américains qui viennent, ils traversent l'Atlantique pour risquer leur vie, soient ségrégués de cette façon.
Oh yes. When I moved to Atlanta in 1956, Atlanta was like Johannesburg, South Africa. If a white person and a black person walked down the streets in Atlanta together, there would be tension nervousness on the street.
À l'époque, quand je suis arrivé à Atlanta, en Géorgie, c'était vraiment comme si on était à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et si on voyait un noir et un blanc marcher côte à côte dans la rue, ça créait une électricité dans l'air, une tension. C'était pas quelque chose d'admis. Quand je suis arrivé à Atlanta, en Géorgie, en 1956.
They are falling all around me. They are falling all around me. The strongest leaves a tree. Every paper brings a news that. Every paper brings the news that the teachers of my sound are moving on. Death comes and rests so heavy. Death. Your face I'll never see no more. It is your path I walk. It is your song I sing. It is your load I take on. It is your air I breathe. It's the record you set. Makes me go on. It's your strength that helps me stand. You're not really going to leave me. I will try to sing my song right. Be sure to let me hear from you.
Et puis ensuite, il y a eu le Vietnam. Et là aussi, vous vous êtes engagé dans la lutte contre la guerre au Vietnam, pour la paix au Vietnam.
Well, when I left the South in 1963, I began teaching here at Boston University in 1964. I still was going south from time to time.
En 63, j'ai quitté le sud des États-Unis pour pouvoir venir ici m'installer à Boston où j'ai commencé à enseigner à partir de 1964. Mais je continuais à suivre les mobilisations qu'il y avait dans le sud des États-Unis.
And in the summer of 1964, I was in Mississippi with many, many other people who had gone to Mississippi, what they called the Freedom Summer. That was a summer in which those three young people were killed. And I and other people who were working in Mississippi drove to this little town where the murders had taken place for a memorial service. Philadelphia, Mississippi, the city of brotherly love.
Par exemple, il y avait un grand rassemblement dans le Mississippi à l'été 1964, The Freedom, voilà, l'été de la liberté, c'était ça qu'on avait appelé.
Yeah,
et c'était cet été-là où il y a eu ces trois militants qui ont été abattus, et on s'était retrouvés pour pouvoir aller à un service funéraire qui était tenu dans la ville de Philadelphia, Mississippi, la ville, soi-disant, de l'amour fraternel, c'est comme ça que ça s'appelait.
And one of the leaders of the civil rights movement stood up on a platform, and he held up a copy of the newspaper. And the headline said, LBJ says, shoot to kill in the Gulf of Tonkin.
Et c'est à ces moments-là, quand on était à cette réunion pour les luttes des droits civiques, pour la mémoire, honorer la mémoire de ces militants qui avaient été abattus, qu'est sortie dans le journal l'information LBJ, c'est-à-dire le président Lyndon Johnson, disait, il faut tirer à vue dans le Golfe de Tonkin. C'était le début de l'engagement américain dans la guerre du Vietnam.
And this young organizer of the movement who stood up there on a platform His name was Bob Moses. And he stood up there and he held up this newspaper, this headline, and he says to the crowd, "The president wants us to go halfway around the world to kill people in some other country, and he will not send federal marshals to protect black people in Mississippi."
Et je me souviens très bien que l'un des organisateurs de ce mouvement est monté sur la tribune avec son journal montrant la déclaration de guerre de Lyndon Johnson et dit le président, il s'appelait Bob Moïse, je me souviens. Et il a montré, il a dit, le président Lyndon Johnson veut nous envoyer à l'autre bout du monde pour faire la guerre, alors qu'il n'est pas capable d'envoyer les troupes fédérales pour garantir la protection ici de ceux qui se battent pour les droits civiques dans le sud des États-Unis.
And when I came north, Congress had just passed the resolution. The president was sending more troops to Vietnam, and I very soon became involved in the movement against the war.
Et c'est comme ça que moi, m'installant dans le Nord, le Congrès qui vote l'envoi de troupes massives en Vietnam, c'est comme ça que je me suis retrouvé à me battre contre la guerre américaine au Vietnam.
In the spring of 1965, time of Johnson's big escalation of the war, of bombing, 100,000 more troops, we had an anti-war rally here in Boston, on the Boston Common. I spoke there, and Herbert Marcuse spoke too. And there were about 100 people.
Et à l'été 65, qui a correspondu vraiment au pic de l'engagement militaire lancé par Lyndon Johnson au Vietnam, il y a une manifestation qui avait été organisée cet été-là, 1965, dans Boston Common, qui est le parc de Boston où ont lieu toutes les manifestations, tous les rassemblements. J'ai parlé à ce rassemblement. Herbert Marcuse a parlé aussi, mais on était une centaine dans le public.
3.5 years later, there was another anti-war meeting on the Boston Common, and 100,000 people were there.
Et alors qu'on était une centaine là, 3 ans et demi plus tard, pour une autre manifestation dans le même parc de Boston Common, cette fois-ci, on était une centaine de milliers, oui, contre la guerre du Vietnam.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it.
Early 1967, I wrote this book about Vietnam called Vietnam, The Logic of Withdrawal.
En 1967, j'ai écrit ce livre sur le Vietnam, Vietnam, la logique du retrait.
I wrote it because nobody was writing about the United States withdrawing from Vietnam. There were people who were critical of the way the war was being waged, but they were not saying we should withdraw from Vietnam. And so I thought it was important to make that argument, the logic of withdrawal.
Oui, j'ai pensé écrire ce livre sur la logique d'un retrait parce que beaucoup de ceux qui en 67 critiquaient l'engagement militaire au Vietnam, étaient contre la guerre du Vietnam, ne posaient pas clairement la question de pourquoi les troupes américaines doivent se retirer.
And actually, I faced the same reasoning at that time that we see today when we call for withdrawal from Iraq. They say, no, we mustn't withdraw. There will be civil war. There will be a bloodbath. We will lose our reputation, as if we had a reputation to lose.
Et là, je vois tout de suite des similitudes avec la guerre en Irak, où beaucoup de gens critiquent la guerre, mais quand on leur dit, mais retirons les troupes américaines, ils disent, non, on ne peut pas. Parce que sinon, ça va être la guerre civile, parce que sinon, ça va être un bain de sang, parce que sinon, on va perdre la face, on va perdre notre image, comme si on avait encore une image sur la scène mondiale.
Those same arguments, really, and took several years before the United States finally withdrew. I wrote the book in 67. The United States withdrew in 73. In my book, the last chapter of the book was a very short chapter. It was a speech that I wrote Lyndon Johnson, the president, could deliver, explaining to the American people why we were withdrawing from Vietnam. So I wrote, of course, he didn't give that speech.
Et c'est pour ça que j'avais écrit ce livre déjà en 67, pour dire qu'il faut retirer les troupes américaines. Et dans le dernier chapitre de ce livre, j'ai un discours qu'aurait pu dire Lyndon Johnson s'exprimant auprès des Américains pour leur donner les raisons de ce retrait. Malheureusement, ce discours, il ne l'a pas tenu. Yeah. Et ce n'est pas avant 73 que les États-Unis se sont finalement retirés du Vietnam.
Well, obviously my book wasn't powerful enough.
Mais bon. Je dois reconnaître que peut-être mon livre n'a pas été assez efficace pour mettre fin à la guerre tout de suite.
Merci Howard Zinn. Je rappelle le titre du livre L'impossible neutralité qui a été publié aux éditions Agon en janvier 2006 et puis évidemment l'histoire populaire des États-Unis chez le même éditeur. Vous avez reconnu Guy Van Til qui traduisait, Catherine Pento a fait le montage. Salutations amicales et tendres à Ambre Ivol. À la technique aujourd'hui, Ronan Mahé et Aveline Carmois. C'est Koye Nguyen et Raphaël Moutéal qui ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot et Catherine Pento. Attend vos messages au répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.
Attention, voici un message qui coupe le souffle. Vendredi, Euromillions met en jeu la somme de près de 129 millions d'euros. 129 millions! Bon, maintenant, on respire un grand coup et on va jouer!
Estimation non garantie des gains à partager au rang 1. Le montant du rang 1 est plafonné à 185 millions d'euros, voire règlement.
Euromillions! Il n'y a que Euromillions pour gagner autant de millions.
FTJ.
À demain, 15h pour là-bas, si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Clotilde Dumès. Salut!
La mort d'un soldat français en Afghanistan, un soldat français du 13e bataillon de chasseurs alpins de Chambéry. Il participait dans la province de Kapisa à une opération de protection d'un convoi logistique de l'armée nationale afghane. C'est le 40e soldat français à mourir en service en Afghanistan depuis le début de l'intervention militaire internationale en 2001. Le rapport 2010 de la Cour des comptes, comme chaque année, un inventaire à la Prévert ou à peu près des dérives budgétaires et autres insuffisances de la gestion de l'État, pointait cette fois les programmes d'armement, les niches fiscales onéreuses, contrôles fiscaux inéquitables, les congés officieux des contrôleurs aériens, mais aussi le manque de détermination publique à lutter contre les pollutions des eaux d'origine agricole qui entraînent un gâchis des moyens et risque de coûter 150 millions d'euros d'amende européenne à la France. Les ministres de l'Industrie de l'Union européenne étaient réunis aujourd'hui à San Sébastien en Espagne. Sur la table des discussions, le dossier de la voiture électrique. France, Allemagne, Italie et Espagne veulent que d'ici 2020, 10% du parc automobile européen soit électrique. Une définition des standards européens devrait voir le jour d'ici le mois de mai pour que les constructeurs travaillent sur des systèmes compatibles. Eux, ils sont écologiques. En plus, ils sont pas chers, pratiques. Ce sont les vélos-taxis. Ils connaissent un succès grandissant en France, en Europe, où ils s'implantent petit à petit dans les grandes villes. Mais à Marseille, où le climat est pourtant particulièrement adapté à ce moyen de transport, la mairie vient de les interdire de circulation. Une enquête d'Isabelle Dore.
Pendant les trois derniers mois, 8 vélos-taxis circulaient autour du Vieux-Port. Un jeune homme de 28 ans, Jonathan Caroubi, avait investi 30 000 euros pour lancer ce nouveau moyen de transport à Marseille, très apprécié des touristes. Mais voilà, début janvier, la mairie a décidé que ces vélos-taxis étaient indésirables sous un faux prétexte d'autorisation. Jonathan Caroubi.
Je n'ai pas besoin, comme tous mes confrères qui ont ouvert ce type d'activité dans toute la France, d'autorisation écrite de la part de la mairie, puisque cette activité n'est pas régie sous le régime du transport. Et donc, aucune loi n'empêche l'activité. Néanmoins, la mairie m'a demandé de retirer de la circulation la flotte de vélocab. Tout simplement parce que je n'avais, selon eux, pas les autorisations nécessaires. clairement. Les taxis de Marseille ont exercé une pression.
Or, il se trouve que le président de l'intersyndicale des taxis, Charles Gilardingui, est également chargé de mission auprès du maire. Et pour lui, les vélotaxis volaient le travail des taxis traditionnels. Charles Gilardingui.
Nous avons des voitures clandestines qui nous volent toute la journée.
Mais ils n'étaient pas clandestins, ces vélotaxis.
Ils n'avaient aucune autorisation. Le mieux pour les Marseillais et les Marseillaises, c'est qu'ils prennent un taxi. Et je remercie d'ailleurs la mairie de Marseille d'avoir compris ce problème.
Un problème qui va continuer à se poser car les vélotaxis vont de nouveau circuler. Mais cette fois, les courses seront gratuites et c'est la publicité qui financera l'entreprise. Marseille, Isabelle Dor, France Inter.
En rugby, la liste des blessés du 15 de France s'allonge. Ils sont maintenant 3 à ne pas s'être remis du match contre l'Écosse de dimanche dans le tournoi Destination. Les ailiers Benjamin Fall, Aurélien Rougerie et le pilier Luc Ducalcon sont forfaits pour samedi au Stade de France contre l'Irlande. Ils seront remplacés par Julien Malzieu, Alexis Palisson et Jean-Baptiste Poux. Et puis en football, journée de Coupe de France avec 4 matchs à l'affiche aujourd'hui. Boulogne reçoit Guingamp, Beauvais accueille Sochaux, Rennes se déplace à Quevilly et le PSG se rend à Vesoul.
Service public, Isabelle Giordano.
Quelles sont les villes aujourd'hui qui favorisent l'accès aux handicapés et celles qui n'en font pas assez? Voilà le thème de Service public en partenariat avec le magazine L'Express. J'attends vos réactions et vos questions sur ce sujet sur franceinter.com.
Service public du lundi au vendredi à 10h.
France Inter.
La différence.
16h04, Carrefour de l'Odéon. Là, là, j'ai du mal. 16h04.
Oui, service de la musique, côté.
Voilà, Frédéric L'Odéon, lui, est en forme, tout juste rentré de Montpellier.
Eh ben oui, c'était bien, c'était bien. À bientôt.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Bah oui, Montpellier, vous avez peut-être entendu sur France Inter ou vu à la télévision, c'est difficilement compatible les deux parce qu'il y a souvent, selon les systèmes de réception, un décalage entre le son de la radio et puis l'image de la télévision. Bah oui, c'est comme ça. Pour l'instant, on n'a pas résolu cette histoire-là. Mais bon, on était très contents. Merci pour vos très nombreux messages de satisfaction. Et puis, voilà, c'est un spectacle musical, télévisuel. On le fait comme on le pense. Quand on fait autrement, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, l'audience a augmenté très fortement, mais j'attends d'avoir les chiffres affinés pour donner le chiffre demain, mais c'est une très très forte progression pour ces nouvelles victoires de la musique. Quant à faire d'une manière différente, on peut toujours, mais bon, en général, la télévision a ses règles qui sont immuables, tout comme la radio. Mais il faut mettre de la douceur, je crois, aujourd'hui. Enfin, pour nous, moi je suis là un peu fatigué, je l'avoue, mais très heureux d'être avec vous et en compagnie de Mozart et des interprétations superbes, il n'en manque pas, mais j'ai ressorti un coffret Georges Sell. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Georges Sell, il n'a pas d'anniversaire ces jours-ci, rien du tout. C'est un monsieur en plus qui était difficile, qui était plutôt fatigant, très exigeant, mais qui a laissé de tels enregistrements mozartiens tellement fins, tellement subtils, tellement déliés, que c'est toujours un régal. Presto de la 28e symphonie.